Vous écoutez
RMC.
RMC.
RMC, la boîte à souvenirs.
David Douillet.
Bonjour à tous, je m'appelle David Douillet, j'ai 51 ans. Et pour ceux qui n'étaient pas encore nés dans les années 2000, eh bien, j'ai été un judoka, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai eu cette chance d'être champion olympique deux fois, d'être quatre fois champion du monde. J'ai aussi été ministre des Sports, ça n'a pas toujours été très facile. J'ai connu des hauts, des bas, des difficultés, mais je me suis toujours relevé. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes, donc vous l'avez compris, avec David Douillet. Salut David.
Bonjour.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, des moments difficiles évidemment, le champion que tu étais, le papa et l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Question traditionnelle avant de débuter cette boîte à souvenirs, comment tu te sens David ?
Bah bien, un peu inquiet malgré tout, parce que je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, parce que les souvenirs c'est pas évident, hein, ils peuvent être interprétés, interprétables, quelquefois ce qui peut sembler être un bon souvenir peut ne pas l'être. Maintenant je sais que vous avez fait du bon boulot et je suis en confiance.
Très bien, tu peux l'être en confiance. Voici le premier papier avec toi, David, dans cette boîte à souvenirs.
Alors, je veux être champion du monde.
Je veux être champion du monde. C'est une citation de quelqu'un, ça. De qui?
Je l'ai dit un jour.
Alors tu as...
Ça fait prétentieux, donc c'est pas
facile. Non, on va l'expliquer. Ouais. Tu as 12-13 ans.
Ouais.
Et... Il y a deux déclics dans ta carrière. Tu es dans ce club de Châtel-en-Bray, c'est en Normandie. Et le premier déclic, c'est Fabien Canu, qui est alors un grand espoir du judo. Il a la vingtaine, hein. Il n'est pas encore le grand judoka, mais il fait déjà parler de lui. Qui vient à l'entraînement et qui te dit quelque chose, qui dit quelque chose à tous les élèves judokas. T'es minot, comment ça se passe?
Bah, ça se passe très simplement. En fait, il est ami avec mon prof et Fabien vient de participer au championnat du monde universitaire. Qu'il vient remporter. Donc en fait, il commence à rentrer dans le grand bain. Je crois qu'à l'époque, il venait d'intégrer l'Institut National des Sports, où les meilleurs judokas de France s'entraînent ensemble chaque jour pour former l'équipe de France et puis les grands championnats après. Et à l'issue de l'entraînement, on se met en rond autour de lui et puis il nous explique tout ça. Il nous explique sa vie, pourquoi, comment, ce qui l'a motivé. Et il a commencé à parler de ses voyages, de ses projets, de ses objectifs. Et là, moi, j'ai accroché très, très fort.
Tu as accroché très fort à son discours. D'ailleurs, ça t'a donné envie de poursuivre et d'en faire ta carrière. Fabien Canu, c'est le premier invité, la première surprise de cette émission. Il se rappelle évidemment de ce moment.
C'était dans une vieille salle de judo, une salle de classe, tout en bois. Enfin, c'était vraiment le préfabriqué. Il fallait voir... là où David Douillet a démarré le judo. J'ai expliqué ce qu'était la vie d'athlète de haut niveau et surtout la chance qu'on avait à pouvoir voyager, à pouvoir rencontrer du monde, à découvrir la planète et que c'était en termes d'éducation extrêmement enrichissant. Donc voilà les propos que je tenais. Il y avait bien sûr la difficulté de s'entraîner, l'exigence du sport de haut niveau, mais aussi tous ces à côté qui font qu'on a une vie qui sort de l'ordinaire.
Ouais. Ça te plaisait ça?
Eh oui, moi, il m'ouvre les yeux en fait. C'est-à-dire que j'ai eu un premier coup de foudre qui est le judo parce que voilà, c'était devenu une passion immédiate pour moi. Et puis j'avais là un deuxième coup de foudre que j'avais pas imaginé, j'avais pas conceptualisé, qui était celle de la vie d'un compétiteur. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est fabuleux quoi. À l'époque, dans Pif Gadget, je regardais la vie de Docteur Justice. Docteur Justice voyageait dans le monde entier, il lui avait tout un tas d'histoires, etc. Et paf, le mimétisme était là, quoi.
Et tu pouvais, toi aussi, voyager comme Fabien Canu dans le monde entier. D'ailleurs, c'est ce que tu feras évidemment dans ta carrière. Et puis, après un entraînement, tu parlais de ton entraîneur qui a convié Fabien Canu, c'est Jacques Lemaître. Eh bien, ton entraîneur demande à tous les judokas qu'il a en face de lui, il demande quel est votre rêve.
Absolument. Absolument. Et alors chacun dit un certain nombre de choses. Et moi, je dis, ouais, j'aimerais être champion du monde. Et là, ça a mis une espèce de froid. Je m'étais pas rendu compte que c'était très prétentieux en fait. Enfin, je me suis dit, mais c'est mon rêve, c'est un vrai rêve, quoi. Voilà, c'est. Et comme tout rêve, ça nous paraît inaccessible, évidemment, à ce moment-là. Mais en fait, ça s'est inscrit comme une toile de fond dans tout ce que j'ai pu faire derrière. Sans vraiment oser le regarder de face parce qu'effectivement, ça fait très, voilà, très prétentieux, très, et en même temps, chaque mouvement, chaque entraînement, était orienté vers ça. Et sans vraiment le savoir au départ, sans en prendre vraiment conscience, mais au fur et à mesure du temps, ça s'est construit comme ça. Et c'était pour ça.
Tu es minot, tu commences à gagner, tu es repéré par le sport-études de Rennes. Rennes te veut absolument, il faut convaincre ta grand-mère, Mémé Blanche, on en reparlera un petit peu plus tard, qui t'a élevé. On va écouter Jacques Lemaître sur ce moment du départ de ton club, Neuchâtel-en-Bray, pour Rennes, le sport-études.
Il y avait une détection à l'époque, vraiment chez les lourds, il y avait très très peu de lourds. Et puis quand on voyait le gabarit de David, l'intelligence déjà du combat qu'il pouvait avoir, ce garçon-là avait un gros potentiel. Donc c'est vrai que moi, quand c'est comme ça, donc il a fallu d'abord convaincre, je pense qu'il a dû vous le dire, convaincre sa grand-mère, parce qu'il était chez sa mamie, chez Mémé Blanche pour tout dire. Et Mémé Blanche comprenait pas pourquoi il devait quitter le club avec deux entraînements par semaine à Neuchâtel pour aller faire du judo à Rennes pendant toute la semaine, quoi.
Oui, il faut la convaincre, parce oui. Que tu vas quitter le nid.
Oui, parce que ma grand-mère est née en 1923, personne dans ma famille ne pratiquait aucune discipline, aucun sport. Donc voilà, culturellement, c'était compliqué. Alors déjà, avec son petit-fils, c'était déjà tombé fou amoureux d'une discipline sportive, le judo, qui plus est. Les entraînements, les compétitions, tout ça, c'était nouveau pour elle aussi. Et Dieu sait si elle a sacrifié son temps de vie, son temps personnel pour faire en sorte que ça se passe bien pour moi. Et alors là, sport-études, pour elle, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est un club? C'est un nouveau club? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est loin? Rennes, c'est très loin. À l'époque, j'habitais dans la banlieue, quelques encablures entre Dieppe et Rouen. Donc, il fallait qu'elle m'emmène à la gare de Rouen. Et ensuite, j'avais 6 heures de train pour aller jusqu'à Rennes. Le TGV n'existait pas, etc. Sans jouer les anciens combattants, c'était un peu compliqué. Tout ça. Il fallait une famille d'accueil là-bas pour les week-ends. Je revenais pas chaque week-end. Enfin, et pourtant, elle a su s'adapter, elle a su comprendre, elle a su avoir les idées ouvertes, elle a su être en réalité hyper moderne, ma grand-mère.
Il va y avoir une scène assez marrante devant le conseiller d'orientation.
Ah ouais.
Parce que il faut lui annoncer que tu vas quitter et que tu vas partir à Rennes pour tes études. Comment ça se passe avec ta grand-mère?
Elle est convoquée, comme moi d'ailleurs, au lycée de Neuf-Châtel-en-Bray, j'étais en seconde. Et le conseiller d'orientation de l'époque lui dit, écoutez, je suis obligé de vous... Enfin, je fais faire mon métier comme je le pense. C'est pas bon du tout que votre petit-fils parte en sport-études, quoi. Voilà. Il a un niveau qui est pas hyper élevé. Alors si vous rajoutez à cela des entraînements quotidiens 2 fois par jour, il est pas sûr qu'il puisse suivre. Il peut se mettre en situation d'échec scolaire. Et puis ensuite, c'est peut-être le judo, ça nourrit personne, quoi. Voilà. C'est pas possible. Quoi. On n'en fait pas un métier. Bon, le type était visiblement pas un sportif, mais très charmant. Et surtout très franc, et ça, on peut pas lui retirer ça. Très direct aussi. Ma grand-mère l'a écouté, mais gentiment. Je me souviens, les jambes, son sac à main sur ses jambes, les mains croisées dessus, elle l'écoutait religieusement, et elle a prononcé qu'une seule phrase. Une fois qu'il a fait, elle l'a laissé parler, très poliment. Il a balancé ses arguments pendant une dizaine de minutes, et là, elle lui a dit. Donc il lui a dit, mais bon, on fait comment alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Pensant l'avoir convaincu. Elle fait, mais mon petit-fils, il fera ce qu'il voudra. Voilà. S'il a décidé d'aller en sport-études, et s'il pense que c'est bien pour lui, eh bien on va faire ça. Point.
Et tu es allé à Rennes
en sport-études. Et le type m'est scotché. Et ça l'a cloué. Il s'est tué. Il est resté pantois comme ça. Elle s'est levée, on est parti. Terminé. Et je suis allé à Rennes.
On peut dire que c'était un hippon dans le bébé blanc.
Ah mais complètement.
La boîte à souvenirs avec David Douillet sur RMC, ça continue dans quelques instants.
RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs. David Douillet.
Et on est de retour dans la boîte à souvenirs avec David Douillet. David, c'est ta carrière, c'est ta boîte à souvenirs, un nouveau papier avec toi.
Thierry Arismendi. Ah,
Thierry Arismendi.
Ouais.
On est juste après les Jeux Olympiques de 92.
Ouais.
C'est le 6 mars 93.
13, ouais.
Donc quelques mois plus tard. Une date dramatique pour toi. Après les Jeux Olympiques de 92, la fédération décide de récompenser les judokas. Soit vous partez au Brésil, soit vous partez au Japon. Et toi, tu vas décider, avec notamment Jamel Bourras,
oui,
Thierry Arismendi, de partir au Japon.
C'est ça. Donc en fait, il nous... On avait une récompense qui était celle d'aller à Rio et de participer au carnaval de Rio, ou alors d'aller s'entraîner comme des brutes, de souffrir et de bien se préparer pour les Championnats du monde qui avaient lieu quelques mois plus tard au Canada, à Hamilton. Et bah, certains ont préféré aller au Brésil et s'amuser. Et puis nous, les bons besogneux dont Thierry faisait partie et Jamel et moi, on a préféré partir au Japon 3 semaines. Pour continuer à s'entraîner et à progresser. Simplement là-bas, et on a perdu Thierry. Voilà, il est un soir, on changeait d'université chaque semaine. On était interne, donc du matin au soir, on s'entraînait avec les étudiants dans chaque université japonaise, et on avait pris, parce que ça nous permettait de souffler et puis de se détendre, parce que c'était vraiment très dur comme stage. Le samedi soir, on se faisait un resto, voilà, parce qu'on mangeait sinon dans les réfectoires. Un petit resto, voilà, tranquillement, et en rentrant du restaurant, parce qu'on était à pied, Thierry, en traversant une rue, les Japonais se couchent assez tôt, puis il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas, dans l'endroit où on était. Au Japon, on roule à gauche. Voilà. Et il y a une voiture qui le voit pas parce qu'il a pratiquement fini de traverser la rue. Il est dans la pénombre du réverbère. Et là, une voiture arrive assez vite, assez bien élancée. Et elle le percute. Voilà. Puis, donc voilà. Thierry meurt dans les bras de Jamel et les miens sur le trottoir. Il avait 24 ans. Voilà. C'était un très très grand espoir, en moins de 60 kilos, beaucoup de talent, famille formidable, et puis ça s'arrête comme ça, d'un seul coup, pof, on sort d'un restaurant, et puis là, pof, c'est fini. C'est très particulier, c'est très dur pour la famille, c'était dur pour nous, c'était dur pour Jamel et moi, parce qu'on a été témoins de ce qui se passait, pour enlever cette image de voir votre copain se faire percuter par un véhicule, c'est compliqué. Et puis c'était une lourde perte pour le judo français, ça c'est sûr. De ce jour-là, je me suis dit, faut vivre, parce que ça peut t'arrêter, comme ça s'est arrêté pour Thierry, d'une seconde à l'autre, à tout moment. Ça vous donne une espèce de philosophie de vie qui, bien sûr qu'il faut prévoir des choses sur long terme, bien sûr qu'il faut construire, mais il faut surtout vivre vraiment et pleinement. Voilà, parce que le temps qu'on a, bah on ne sait pas.
Jamel Bourras se souvient évidemment très bien de ce moment et ça vous a soudé.
En 93, au Japon, ça nous a marqué à vie. Je ne sais pas combien de temps après, maintenant c'est 27 ans plus tard et ça restera toujours. Hein. Ça nous restera toujours dans la mémoire. C'était vraiment un séisme pour nous. On a vu un pote se faire écraser par une voiture devant nous. Quand on a perdu, c'était un super grand, c'était un grand judoka. Je veux dire, lui, bon, c'est le décès qui a fait qu'il n'a pas été champion du monde, champion olympique. Mais moi, je suis persuadé, à mettre même ma main coupée, que lui, il aurait été champion du monde, champion olympique. C'était un tueur.
Il a raison. Il a tellement raison. Vous savez ce qui s'est passé en ce moment, et je me fous du jugement que les gens vont pouvoir avoir. Il y en a peut-être qui vont peut-être rire de ça. Jamel et moi, à ce moment-là, sans rien se dire, Jamel est musulman, moi je suis chrétien. Tous les deux, on a prié pour notre pote en même temps, là, alors qu'il partait. Tous les deux, en même temps. Alors vous voyez, quand on passe des moments comme ceux-là, Là, il y a plus de, il y a plus de délire. Je détiens la vérité, etc. On s'en fout complètement, quoi. Notre pote, il est mort. Et effectivement, avec Jamel, rien que pour ça et pas que pour ça, mais c'est à la vie, à la mort, quoi. C'est le cas de le dire. C'était tellement monstrueux, dur à vivre, que nos personnalités, notre culture, nos religions n'ont fait qu'un. Et nous faisons toujours qu'un. Et c'est ça le sens du monde, en fait.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs. Avec David Douillet. Vous écoutez RMC ?
Mapmonde.
Mapmonde. Ah bah, le hasard fait bien les choses parce que nous allons continuer chronologiquement. Nous sommes quelques mois donc après le décès de Thierry Arismendi. C'était en mars 93. Nous sommes en octobre 1993 à Hamilton, au Canada. Les championnats du monde. Et tu vas réaliser ton rêve de gosse. On en a parlé en début d'émission. Ouais. Tu veux devenir champion du monde.
Exactement.
Mapmonde, on va expliquer pourquoi dans quelques instants, mais juste se remémorer ça, parce que David Douillet, c'est le rêve de gosse.
1m97 pour 131 kilos, l'histoire de l'ascension fulgurante sur le tatami d'un colosse normand. David Douillet est le premier Français à décrocher le titre de champion du monde de la catégorie reine du judo, les poids lourds. C'était la nuit dernière à Hamilton au Canada, Jean-Philippe Guillain.
Il a 24 ans, pèse 131 kilos pour 1m97 et vient d'être sacré champion du monde des lourds. En finale, face au grand favori, le géorgien Kakalechvili, Douillet va placer une attaque foudroyante qui surprend le champion olympique. Un avantage que le Français conservera jusqu'au terme du combat sous les acclamations de tout le clan français.
Le voilà, c'est l'apogée d'une carrière, même si elle ne fait que commencer quelque part.
Ouais, je m'étais dit effectivement que je suis champion du monde. Tout le reste, ça va être que du bonus. Ça ne va être que du bonus parce que mon rêve, il est assouvi quoi. J'ai réalisé mon rêve. C'est un moment incroyable parce que Kakalechvili, le géorgien, m'avait mis une fessée monumentale au dernier Championnat d'Europe, juste avant, en mai. Il avait été intouchable, il m'avait battu en finale, j'avais fait vice-champion d'Europe juste derrière lui. Et donc c'était la revanche, quoi.
Qu'est-ce que tu fais après le combat? La première personne que tu appelles?
J'appelle ma grand-mère, comme je faisais toujours. J'essayais toujours de la rassurer. Et elle me dit un truc invraisemblable. J'ai eu du mal à contenir mes larmes, je dois dire, parce que elle m'a rappelé ce que je faisais quand j'étais gamin, en fait. Quand j'étais gamin, quand je devenais champion de district, champion de Seine-Maritime, champion de Normandie, champion interrégion, j'avais pris l'habitude de regarder sur une carte la superficie du territoire que j'avais conquis, comme un espèce de chef de guerre là qui est très fier de lui et dit voilà, je suis champion de tout ça. Mais je le disais à personne, hein, c'était mon petit truc, mon petit bidule à moi. Et puis je m'en étais ouvert à ma grand-mère qui la faisait rigoler. Sauf que là, elle m'a dit, tu sais mon petit fils, ce matin j'ai pleuré. Parce que la map monde qui est dans la salle à manger, eh ben je me suis dit que mon petit-fils, il était champion de tout ça.
Avec David Douillet dans la boîte à souvenirs, ça continue dans quelques instants sur RMC. Restez avec nous.
RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs. David Douillet.
Vous écoutez RMC, on est de retour dans la boîte à souvenirs avec David Douillet. David, un nouveau papier dans ta boîte.
T'es un dieu vivant. Ah, ça, je sais qui est-ce qui l'a dit, ça.
Ah!
C'est Thierry.
T'es un dieu vivant, exactement. Thierry Rey, le commentateur de judo, notamment durant les.
Le meilleur commentateur qu'on ait jamais eu. faut quand même préciser que Thierry a tout gagné lui aussi. Il a été champion d'Europe, champion du monde et champion olympique. C'était le premier Français à réunir tous ces titres.
Alors, nous sommes le 22 septembre 2000, finale des Jeux Olympiques de Sydney.
Pas trop Douillet qui tient. Allez, mon grand, allez. Allez, Thierry. Attention à ça. Oui! C'est un génie. Oh, je veux pas m'énerver. Regardez le génie du judo mondial. Allez, Thierry. C'est génial. Putain, il a gagné. T'es un monstre. T'es un dieu vivant. T'es un dieu vivant. Regardez, pardon, hein, on est. Il y a des gens qui doivent sourire ou qui doivent rire de nos réactions, mais si vous saviez comme c'est énorme.
Ouais, mais Thierry, pourquoi ça se passe comme ça pour lui? Parce que on a une vraie proximité. C'est mon président de club. Il est président du PSG Judo et je suis sociétaire du PSG Judo. Et Thierry, il sait dans quelle galère je suis physiquement depuis quelques années, depuis mon accident de moto, depuis 96. Et il me suit vraiment au quotidien, quasiment. Il sait tout ce que j'ai dû faire, tout ce que j'ai dû mettre en place pour revenir au plus haut niveau.
Et on en reparlera justement un petit peu plus tard de cette préparation. Ouais. C'est le hasard qui fait que tu as pioché cette Olympiade.
Exactement.
C'est un joli pied de nez à tous ceux qui ont douté de toi à ce moment-là, quand même, d'avoir la médaille d'or.
Oui, parce qu'il y en a un paquet. Parce que comme j'avais beaucoup de difficultés à m'entraîner compte tenu de mes séquelles physique dû à l'accident, oui, beaucoup m'avaient enterré, mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire la compétition parfaite, je voulais faire les combats parfaits. Et pas facile, mais je voulais leur montrer que c'est, il y a que ça qui m'animait, et que je perde ou pas, c'était le cadet de mes soucis, réellement.
La persévérance, c'est Myriam, encore une fois, ta fille qui nous en parle.
Un des adjectifs pour... Pour mon papa, c'est qu'il est persévérant, peut-être têtu parfois, mais il sait ce qu'il veut. Et je pense que c'est pour ça que ça a été un des plus grands athlètes de tous les temps. C'est parce qu'il n'a pas écouté les petites voix qui lui disaient « attention, là tu vas avoir mal, attention, ça tu ne peux pas faire ». Non, il a toujours essayé de dépasser ses limites et s'il l'avait écouté tous ses médecins et kinés qui lui disaient « ne fais pas ça, ça va être pire ou tu vas te faire encore plus mal ». Il n'aurait pas décroché ce titre.
Eh ouais, mais elle me connaît vraiment bien, ma fille.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec toi, David Douillet.
Bonne.
Eh bien, justement, ça tombe bien que tu tires ce papier maintenant parce que tu t'en souviens de Bonn, B-O-2-N,
oui,
c'est
oui,
un
oui,
village
c'est la ville.
En Allemagne,
ah, en Allemagne ouais.
Qui va compter
ouais.
Pour toi, c'est justement cette préparation
exactement.
Aux Jeux Olympiques 2000. Ouais. Il faut dire qu'entre 97 et 2000, tu es embêté par les blessures. D'ailleurs, tu vas déclarer forfait pour les championnats du monde 1999.
Ouais.
L'objectif dans la tête, c'est Sydney 2000. Mais tu le disais, il y a beaucoup de gens qui doutent de toi, beaucoup de proches aussi, qui te dissuadent d'aller aux Jeux Olympiques, de faire le combat de trop. On va écouter Jérôme Dreyfus à ce moment-là. Il s'en souvient très bien.
Et on le voit toujours pas arriver sur le tapis en 2000, début 2000, quoi. Donc là, les gens, ils commencent à, effectivement, pas mal de personnes doutent. J'ai même des entraîneurs nationaux qui viennent me voir en me disant « Jérôme, il faut que tu te mettes dans les configurations, tu vas faire les Jeux, parce que David, c'est compliqué ». Il a du mal à s'y remettre, il a du mal à résoudre son problème de dos, et c'est compliqué.
C'est compliqué et ça t'embête ces doutes autour de toi ?
Oui.
Jérôme Dreyfus, c'est le sparring partner, hein.
Ouais.
Enfin, en tout cas c'est le deuxième judoka dans la catégorie.
Exactement, d'ailleurs c'est grâce à Jérôme que je participe aux Jeux Olympiques, parce que à l'époque... il y avait un système de ranking list ou de résultats. Jérôme me remplace au Cheval du Monde auquel j'avais pas pu participer.
En 99.
Et il fait cinquième.
Et il faut être dans les cinq premiers pour qualifier la catégorie, la nation à la catégorie aux Jeux Olympiques.
Ce qui fait que grâce à Jérôme, j'ai pas besoin d'aller chercher une qualification olympique toute l'année qui m'aurait complètement dégradé parce que j'avais plus grand chose dans les valises arrière pour comme énergie et de potentiel pour aller jusqu'au jeu. Donc il qualifie la catégorie de poids et la nation.
Et on arrive justement un mois avant les Jeux Olympiques de Sydney, à ce tournoi en Allemagne, à Bonn. Et là, t'es battu en demi-finale par un Allemand, il s'appelle Frank Möller.
Frank, ouais.
Et là, ça te fout les boules. Là, t'as les boules.
J'ai les boules, mais pas tant que ça. J'ai les boules parce que j'aime pas perdre. Bon, ça c'est réglé. Mais j'ai les boules parce que beaucoup m'enterrent à ce moment-là. Les journalistes, certains entraîneurs, même des coéquipiers qui m'enterrent. Sauf que personne n'a compris. Peut-être Jérôme d'ailleurs. Il y a que lui. Il y a que les deux trois avec lesquels je m'entraînais quotidiennement qui pouvaient le comprendre et le voir.
La boîte à souvenirs avec David Douillet. Un nouveau papier avec toi.
Non Douillet.
Non Douillet.
Ouais, N-O-M. Hein.
Oui, exactement. Pourquoi il y a ce papier, tu penses ?
Bah, je porte mal mon nom, sans doute, j'en sais rien.
Pas du tout, mais tu n'aurais pas dû porter ce nom.
Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû m'appeler Brument. Voilà, qui est le nom de mon papa.
Mais j'ai aussi envie de parler de ce nom de tes quatre enfants. Il y a Jérémy, il y a Myriam qu'on a entendu, il y a Mathéo, il y a Blanche, ouais. D'ailleurs, la ouais. petite dernière, qui s'appelle Blanche Douillet.
Oui.
Comme sa grand-mère.
Comme sa grand-mère. Comme son arrière-grand-mère.
Il a été facile à porter pour eux ce nom Douillet ?
Non. je pense pas. Particulièrement, peut-être pour Jérémy, qui lui a peut-être été victime de comparaison parce qu'il est athlète. Bon, même si c'est le basket, c'est différent, mais je pense qu'on a dû le saouler avec ça, ça c'est certain. Il le dit pas, il reste assez discret là-dessus. Je pense qu'il a dû le digérer, et puis il est intelligent, donc il a dû en faire, enfin l'optimiser même sans doute. Myriam, elle a toujours eu un fort caractère, donc elle défendait son frère dans la cour de récré. Peut-être de caractère, c'est celle qui est la plus proche de moi. C'est une battante. Elle s'occupe pas trop des détails.
Une battante, mais on va l'écouter justement sur ce nom Douillet.
Je vais pas vous mentir. Après, il le sait. Ça a pas été facile tous les jours. Beaucoup plus pour mon frère parce que mon frère est dans le milieu sportif. Mais c'est vrai que on a quand même grandi avec le nom de Douillet, et c'était un nom très célèbre. Ça l'est toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était à l'école, évidemment, c'était un nom extrêmement célèbre. Et c'était pas facile parce qu'on avait aussi des moqueries, malheureusement, de certaines personnes. Je l'ai bien vécu, mais en même temps, je l'ai mal vécu. Je l'ai bien vécu dans le sens où on a grandi quand même avec une chance d'avoir pu voyager, d'avoir vécu des choses extraordinaires. Et d'un autre côté, c'était pas facile parce que, à cause du regard et de la jalousie des gens, malheureusement, on peut pas empêcher ça.
Ouais, ils sont restés discrets par rapport à ça. Souvent, je leur posais la question et je crois qu'ils ont. Les enfants peuvent être merveilleux parce qu'ils ont dû vouloir me protéger de ça, quelque part. Parce qu'ils m'ont. C'est la première fois que j'entends Myriam me dire ça comme ça. Elle m'a dit oui, de temps en temps. Elle a été assez évasive là-dessus, mais je me doutais que ça devait être comme ça, forcément. C'est pas évident pour les petits loups. On peut pas plaire à tout le monde, c'est logique. Hein, ouais. Mais je me fais pas de soucis pour eux. Ils sont courageux, j'ai vraiment de la chance d'avoir des bons gamins, ce qu'on appelle des bons gamins. Ils sont bien dans leur peau. Ils font des choses qu'ils aiment. Ils sont gentils. C'est vraiment des enfants. J'ai de la chance d'avoir des enfants merveilleux, vraiment.
Pour les avoir au téléphone, je te confirme.
Ah, d'accord.
Très très gentil. On se dit dans la famille qu'on est fiers l'un de l'autre. Ils sont fiers de toi, tes enfants.
Je sais pas. Je pense que oui. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont passées dans ma vie, mais j'en fais pas état, quoi. On n'en parle pas. J'en fais pas de morale là-dessus.
Oui, mais c'est toujours bien ou pas. Je sais pas, mais c'est toujours bien de savoir si ses enfants sont fiers. On va écouter Jérémy. On l'a pas encore entendu, le grand.
Comment on ne peut pas être fier d'un tel parcours sportif, fier également de toute sa reconversion en étant sportif. Je le comprends davantage aujourd'hui. Et puis fier aussi de la personne qu'il est. On se dit pas forcément tout le temps les choses, c'est sûr. Voilà, je sais qu'il est fier de moi et je pense qu'il sait que je suis fier de lui aussi.
Il a raison. Je suis très très fier de mon fils, ouais, de Jérémy. Très très fier. Je trouve que il donne. Moi, je suis fier quand les personnes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et c'est le cas de Jérémy. C'est le cas de Myriam aussi, évidemment, dans son secteur, et Mathéo aussi. Donc, j'ai de la chance. Je me doutais de ça, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est très particulier de parler de ça. Je vois pas un papa dire est-ce que t'es fier de moi, mon fils? C'est ridicule. Enfin, c'est absurde.
Dit comme ça, c'est
oui,
sûr.
C'est complètement absurde. Ça m'arrangeait de le dire comme ça. moi, par contre, je suis vraiment fier de mes enfants. Ça, c'est certain. Après, vous savez, vous pouvez avoir des petits loups qui vivent mal ce dont on parlait, la notoriété, ou ça leur a peut-être posé d'immenses problèmes, et que peut-être dans cette balance d'admirer un parent, les inconvénients pèsent peut-être plus lourd. Je sais pas, ça peut arriver, hein, très certainement. Mais on n'en parle pas. Ouais, c'est marrant, c'est comme ça, c'est dans notre truc. Je sais exactement ce qu'ils pensent de moi. Là, pour le coup, arrêtez de de parler des bonnes choses. Moi, je vais vous parler des mauvaises choses. Ils savent que je suis têtu et je le suis. Ils savent que je suis de mauvaise foi et je le suis. Ils savent que je suis ronchon et je le suis de temps en temps. Ils savent que je suis dur avec eux. Voilà. Ils savent que je laisse pas grand chose passer. Ils savent que quelquefois je suis un peu brutal dans ce que je dis. Enfin, je mets pas trop les formes. Donc, je sais qu'ils me connaissent parfaitement. Ils connaissent mes défauts. S'ils m'en pardonnent un petit peu, compte tenu d'une vie un peu particulière que j'ai pu avoir, bah, c'est plutôt sympa de leur part. Je sais que ça doit être le cas. Et si l'admiration l'emporte, tant mieux.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec David Douillet.
La sieste.
La sieste. Tu sais de quelle période de ta vie on va parler ?
Celle où j'étais athlète.
Exactement.
Voilà.
Tu fais certainement des siestes encore aujourd'hui, évidemment. Mais là, nous sommes à Atlanta. Tu es qualifié pour les demi-finales, où tu vas affronter le monstre japonais Ogawa,
ouais.
Qui t'avait battu d'ailleurs à Barcelone.
C'est ça.
Juste avant cette demi-finale, le japonais va halluciner.
Et oui, il va halluciner. Enfin, moi, je l'ai pas vu. C'est Marc Alexandre qu'on a eu tout à l'heure qui m'a raconté l'histoire parce que moi, je dormais pour le coup. Souvent, il y avait un bon bout de temps entre les quarts de finale et les demi-finales pour des raisons d'émission, enfin de retransmission. Et là, il y a 2 heures à attendre. Donc. Et puis moi j'ai envie je me calme, je me repose et souvent ce que je faisais quand il y avait beaucoup de temps d'attente entre deux combats, je faisais une petite sieste. Voilà, très régulièrement. Et là je roule mon kimono, je me fais un petit baluchon et je pose ma tête dessus et je dors un quart d'heure ou 20 minutes, voilà. Et en réalité Marc me dit, alors lui il avait l'habitude de me voir comme ça, mais le japonais non. Lui tournait comme un fauve dans la salle d'échauffement. Et puis d'un seul coup, quand il m'a vu faire ça, il y a plus grand monde puisqu'il restait que les derniers qualifiés. Il a halluciné. Il s'est planté devant moi. Il m'a regardé. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a regardé dormir en me disant mais qu'est-ce qu'il fait ce type.
Il y a une demi-finale des Jeux Olympiques.
Une demi-finale des Jeux. Il est en train de ronfler le mec.
Marc Alexandre, on l'écoute sur ce souvenir.
Il vous en a peut-être pas parlé, mais. Moi, comme j'aimais bien suivre les athlètes de A à Z, c'est-à-dire du début de la pesée jusqu'à la fin, et je voulais pas lâcher. Et lui faisait sa sieste, et moi, j'avais la tête sur son ventre parce que dès qu'il bougeait, comme ça, je voyais qu'il avait envie de bouger, qu'il avait envie de s'échauffer, etc. Oui, c'est vrai. C'était un moment très étrange et voilà, de proximité de l'athlète, quoi, en fait.
Donc, si je résume. T'es en train de dormir avec le coach qui est sur toi,
oui.
Avant le demi-finale des Jeux Olympiques.
Oui.
Tu m'étonnes qu'il hallucine, le japonais.
Mais c'est ça, exactement.
Et cette demi-finale, cette finale avant la lettre, ouais. C'est la demi-finale et ça se passe comme ça.
David qui connaît bien Ogawa, qui a une revanche à prendre. Il faut se rappeler qu'à Barcelone, il avait perdu contre Ogawa dans son tableau. David qui n'a pas intérêt ou qui n'a pas envie d'emballer le match. C'est bien fait, ça, il faut revenir sur l'arrière. David qui marque un premier Yuko. Et là on sent, vous voyez, que le japonais a dû travailler à la vidéo. David il a fait un de ses trucs spéciaux. Aïe 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 aïe. Attention à la dernière attaque du japonais. David Douillet mène et gagne et se qualifie pour la finale. David Douillet est en finale en battant Ogawa.
En finale, on peut dire que c'est une formalité après en finale. Même si c'est jamais une formalité, c'est la finale des Jeux Olympiques.
C'est la finale des Jeux. Ernesto Pérez, c'était l'Espagnol, avait fait le ménage, lui, dans son autre tableau. Il avait battu tous les tauliers de l'époque aussi. Je savais qu'il fallait pas que je le néglige, même si je l'avais toujours battu, c'est vrai. Il fallait pas que je le néglige dans cette finale. Ce que j'ai fait, je l'ai pas pris à la légère, j'ai bien fait. Mais ça s'est bien passé.
Exactement, bon. Ça s'est passé comme ça.
Il est à 5 minutes de ses mains. Il y a juste un Espagnol entre lui et son rêve. Il faut y aller. Allez, il faut prendre sa garde là. Attention, regardez, c'est un combat tactique. Yeah ! Il est champion olympique ! David Douillet est champion olympique et il saute. Il peut sauter, quel grand athlète. C'est merveilleux, regardez. Oh, ça me fait plaisir, c'est extraordinaire, regardez-le. Sera tranquille, quel grand bonhomme.
Et tu l'as sacré, David.
T'as ta première médaille d'or. Le seul problème, c'est qu'on va te donner une mauvaise médaille.
On me donne, mais je me rends pas compte parce que en fait, c'est écrit sur la tranche de la médaille. On me donne la médaille des lourdes féminines qui a été remportée ce jour-là par une chinoise et qui elle s'en aperçoit. Donc j'apprends par la fédération internationale qu'ils sont trompés de médaille et qu'elle va me la rendre au championnat du monde l'année prochaine. Sauf que c'est ce qu'elle a fait. Donc j'ai eu ma médaille un an plus tard, la vraie quoi.
La vraie.
Pas celle du podium, la vraie.
Ce qui est assez étonnant, c'est que à chaque fois ça se passera aux Jeux Olympiques, toi qui dors plutôt bien, on l'a vu avec cette sieste, cette nuit-là, tu dors pas.
Non, pas parce que je suis pas content, c'est parce que je suis dans un vide absolu.
T'as tout gagné là.
Parce que ce jour-là, j'ai tout gagné, ouais. Ce jour-là, voilà, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné et je me dis, mais comment je vais faire pour me remotiver, quoi? Comment je vais faire pour me remettre dans le coup et est-ce que cette motivation est toujours là? Je me sens au bord d'un précipice. J'ai plus de chemin. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Et heureusement, j'ai un accident de moto qui me remotive et qui me permet de remettre les compteurs à zéro. Et, enfin, c'est complètement débile ce que je dis, parce que j'aurais pu y passer. J'aurais pu même ne plus jamais pouvoir faire le judo de ma vie, ne plus pouvoir être un athlète, être handicapé, etc. En fait, ça n'a pas été le cas, mais en fait, ça a largement contribué à ce que je continue ma carrière.
Oui, parce qu'on est le 30 septembre 96, ouais. Sur l'autoroute A4.
Oui.
Tu vas avoir cet accident de moto. Donc, on est quelques jours après, un mois après,
ouais,
après,
un mois pile,
après,
ouais.
Après les Jeux Olympiques. Et là, le diagnostic est pas bon.
Ah non, il est pas bon du tout, puisque les premières conclusions des chirurgiens, c'est de dire, on va essayer de vous sauver votre jambe, quoi, parce que c'est pas sûr qu'on puisse le faire. Et voilà. Donc, on se pose même plus la question, est-ce qu'on remarche ou pas, est-ce qu'on va faire du judo ou pas, non, c'est première chose, on va voir si on peut sauver la jambe. Et puis après, on verra. Voilà. Donc, ça vous remet les choses bien en place.
Ouais. Mais toi, tu y as toujours cru. Toi, tu t'es dit, c'est le moment, c'est le moyen de...
Ouais, dès le lendemain des deux opérations, parce qu'en 48 heures, 72 heures, j'étais opéré deux fois, l'épaule et la jambe. Et où là, j'apprends que, effectivement, ma jambe est toujours là. Lorsqu'on me dit, on n'est pas sûr que tu puisses remarcher normalement, alors le judo, de ce jour-là, non. Dans ma tête, je me suis dit, je vais remarcher, je vais redevenir un judoka, et je vais redevenir un judoka qui gagne, qui va défendre son titre. Et qui sera champion du monde dans un an à Paris en 97. Voilà. C'est ça ma marche, c'est ça mon programme, c'est ça mon cahier des charges. C'était dur, c'était pas réussi d'avance, mais voilà, quelque chose d'extrêmement négatif qui aurait pu être terrible en réalité m'a beaucoup aidé. Je l'ai positivé.
Et en 97, au championnat du monde, qu'est-ce qui va se passer?
Je gagne.
C'est la boîte à souvenirs avec David Douillet. Mais David, ce n'est pas encore complètement terminé. Dans quelques instants, nous allons sortir de la boîte sur RMC.
RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Nous sommes toujours avec David Douillet dans la boîte à souvenirs. Et maintenant, nous allons sortir de la boîte, car ça peut arriver. Quand on sort de boîte, il peut y avoir un petit interrogatoire. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Douillet, pour un interrogatoire?
Essayez.
Ton plus beau combat?
Le dernier. Le dernier, celui de Sydney, oui.
Ton pire combat?
Mon pire combat?
Mauvais comme un cochon.
Mauvais comme un cochon. on m'avait forcé de participer à un championnat d'Europe. J'étais pas prêt, j'étais encore sous l'accident, etc. Enfin, non, c'était vraiment un championnat de merde, pardon.
Le plus beau dojo du monde?
Le Kodokan. C'est pas le plus beau physiquement, parce que c'est dans un immeuble qui est complètement... c'est pas joli. Mais il y a la chaise de Jigoro Kano, celui qui a créé le judo. Et puis c'est le Kodokan, quoi. C'est la mecque du judo.
C'est où? Au Japon, j'ai
À Tokyo, oui, pardon.
Le judoka le plus insupportable?
Oh, ça devait être moi. J'aurais pas aimé être mon entraîneur, voilà. Franchement.
Ok. Je te l'accorde pour celle-ci, mais pour celle qui vient après, je te l'accorderai pas. Le politique le plus insupportable?
Ça peut être là. Ça peut être là, politique.
Ok.
Mais je donnerai pas son nom. Insupportable. J'ai vu. Vous saviez ce que j'ai vu. J'ai vu des personnes dire pique-pende du président et du gouvernement en place et faire se rouler par terre pour rentrer au gouvernement. Voilà. C'est insupportable, cette hypocrisie, cette ambition mal placée, ce manque de colonne vertébrale, voilà. Alors c'est j'en ai vu que très peu, heureusement, mais j'en ai vu, ça c'est sûr.
On embrasse Nadine Morano.
Non, je blague. C'est pas elle en plus.
Le sport où tu aurais adoré être une star?
La boxe. J'adore la boxe. Je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est d'abord c'est le noble art. On l'appelle comme ça et c'est vraiment ça pour moi. C'est la quintessence du duel. Voilà. J'aurais aimé être un Mike Tyson.
Contre quoi tu échangerais tes médailles olympiques?
En ce moment?
Ouais.
Un vaccin. Avec ça qui marche. Qui marche, ouais. Avec ça dont on est sûr qu'il marche.
Ta pierre cuite?
Une de celles qui m'a écourté un stage lorsque j'étais junior. Et j'en suis pas fier. Voilà. C'était ma première en réalité. Ma première, la première, ça n'a pas été joyeux. Donc on m'a demandé de rentrer chez moi le lendemain. Voilà. Gentiment.
La dernière fois que tu as pleuré, David?
Ah bah il y a pas longtemps, c'était tout à l'heure. Hormis la fois où j'ai eu une larme pendant cette émission en parlant de ma grand-mère tout à l'heure, ma femme a envoyé un texto tout à l'heure dans le train quand je suis venu. Elle le sait pas. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré en recevant le mien, et moi j'ai pleuré aussi en recevant le sien. Voilà. Donc il y a quelques heures en fait.
L'interrogatoire va se poursuivre avec tes proches maintenant. Une question de Cédric Dermé pour toi.
Ah. Salut David, donc je voulais savoir avec tout ce que tu as fait, tout ce qui t'est arrivé dans les années à venir, qu'est-ce que tu souhaites le plus pour toi?
Pour moi, rien. J'ai envie de donner, de redonner, de transmettre, voilà. C'est ça que j'ai envie de faire. Quelles que soient les activités, en tant que père, en tant que judoka, en tant que amoureux de mon pays, en tant que amoureux du sport en général, voilà. J'ai envie de transmettre un témoin. On nous a transmis un témoin, quels que soient les domaines. Il faut retransmettre ce témoin-là. C'est un devoir, je trouve.
Jean-Luc Rouget a une question pour toi.
Ah, David, si t'avais pas fait du judo, qu'est-ce que t'aurais fait? Sport mécanique? J'ai l'impression, non? Allez, on se retrouvera sur un circuit si tu veux.
Il a probablement raison. Mais le problème, c'est que quand vous faites 130 kilos et 1m96-17, pour entrer dans un baquet, c'est pas évident. Ou alors, faut les faire sur mesure. Voilà. Mais j'adore, ouais, j'adore tout ce qui vole, tout ce qui roule, tout ce qui, voilà. Et je fais des compétitions de quad avec des copains, c'est assez marrant, ouais. Ouais.
Un message maintenant du grand Jérémy, 29 ans, ton fils.
Je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, parce que ça m'a permis d'être l'homme que je suis également aujourd'hui. Et puis le fait que, comme je pense tout enfant, on a envie de passer beaucoup plus de temps avec lui, le voir plus souvent, discuter plus souvent, qu'il ne regrette jamais ses choix, et c'est là le plus important dans une vie. Voilà.
Il a raison, le JJ.
Vous êtes loin. Hein,
ouais.
En géographie.
En géographie, c'est embêtant, mais c'est de sa faute. Il fait un métier de fou là. Il change de club tous les 10 minutes. Alors, je suis tellement heureux. Mais vraiment, je suis vraiment heureux de. Je sais tellement ce que c'est de faire quelque chose qu'on aime profondément. Il fait quelque chose qu'il aime profondément. Donc.
Une question maintenant de Jamel Bourras.
David, est-ce que comme moi, de temps en temps, ça te titille un petit peu et t'as envie de refaire un peu de baston, de compète?
Mais tous les jours, Jamel. Tous les jours. C'est ma torture. C'est ma condamnation sur cette terre. C'est que quand on aime ça, quand on est un compétiteur, quand on est picousé comme nous, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense. Voilà. Puis tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un truc qui, voilà, on veut toujours faire mieux. Mais tout est une compète. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas faire autrement. J'ai beau me soigner, hein. Même quand je joue aux cartes, je me suis même surpris avec mes enfants à être de mauvaise foi ou à être mauvais joueur parce que je perdais. Donc c'est complètement débile. Je me soigne. Mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Ça fait partie sans doute de mon ADN. Mais tous les jours, j'y pense, tous les jours, je rêverais de changer de corps. Je vois des films de science-fiction là où ils changent de corps pour avoir des corps tout neufs. Mais demain, je repars. À la seconde où on en parle, je repars tout de suite.
T'es bien accroché ?
Ah oui, pourquoi ?
Oui. Un message de Myriam, maintenant.
Coucou papa, c'est ta grande fille, ta Mimi. J'espère que tu passes un bon moment. Je ne sais pas si tu as déjà les petites larmes aux yeux ou pas, mais en tout cas, moi, je les ai. Je voulais vraiment te dire à quel point je suis fière de toi et je t'aime beaucoup. Je vais essayer de parler. En fait, je viens de passer quelques minutes à être questionnée sur ta vie et sur tout ce qui s'est passé. Et je voulais vraiment te dire que je t'aime. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, que tu saches que tu as une fille qui t'aime beaucoup. Et qui voit l'avenir, un bel avenir pour toi encore, de belles années encore pour toi. Tu as déjà fait tant de choses et tu n'as même pas encore 60 ans. Tu as tellement fait de grandes choses et de belles choses. Mais je sais qu'il y a encore de plus belles choses à venir. Et voilà, je voulais te dire à quel point je t'aime, que je suis là et que je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je t'embrasse très très fort et on se dit à bientôt.
Ah ben voilà, c'est la plus belle des récompenses qu'un père puisse avoir. La plus belle, l'amour de ses enfants. Il n'y a aucune médaille olympique, aucun titre qui peut arriver à la cheville de ce que je viens d'entendre.
Ça fait deux fois que je pleure en écoutant Myriam. Hier en écoutant le son et aujourd'hui en le réécoutant. Vanessa, ta compagne a un message.
J'aimerais lui dire merci. Merci David d'être rentré dans ma vie, merci d'être un super papa, un super mari et merci d'être toi et de nous apporter autant de bonheur. Et j'oublierai jamais ce que tu m'as dit un jour où tu m'as dit le plus important dans la vie, c'est ce que les gens retiennent de nous et le bonheur qu'on a pu leur apporter.
Moi, elle m'en apporte tous les jours, donc je suis plutôt gâté. Je suis vraiment gâté. Mais c'est ça, en fait. Elle a mille fois raison. C'est le plus important, c'est ça. Le reste, le matériel, etc., ça n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est qu'un jour, quelqu'un puisse dire, tiens, ce type-là, ou cette personne-là, cette femme-là, ce personnage-là, c'était quelqu'un de bien. Voilà, le reste.
Il nous manque quelqu'un dans cette boîte à souvenirs, quand même.
Blanche?
Ah, Blanche, oui. Évidemment. Elle a 4 ans, elle a voulu te laisser un petit message.
Bonjour, c'est Blanche. Moi, j'ai envie que tu viennes à la maison. Comme ça, je te fais un gros câlin. Et pour, j'aime bien te faire des surprises à chaque jour. À demain. Je t'aime.
Et voilà. C'est dur quand un père avec ses filles. Hein. Entre Myriam et Blanche, c'est pas simple. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous m'en faites voir dans cette boîte à questions, là. Elle est incroyable, parce que ça, elle le dit vraiment. C'est pas sa mère qui lui a soufflé. Elle me le dit tout le temps, en fait. Donc, elle me fait la gueule quand je m'en vais, parce que je pars assez régulièrement de la maison. Elle me fait la gueule quand je rentre aussi. C'est comme ça que je mesure qu'elle m'aime toujours. En fait, non, mais ça dure une heure ou deux, puis ça se passe. Mais elle apporte tellement à tout le monde. Elle m'apporte à moi, évidemment, mais elle apporte à mes propres enfants, évidemment à mon épouse. Mais c'est devenu, en étant la petite dernière comme ça, à l'âge que j'ai et l'âge de mes enfants, c'est une espèce de ciment extrêmement puissant qui est entre nous. Et même si elle n'a que 4 ans, aujourd'hui dans la famille, elle a la place centrale. C'est étonnant.
Merci beaucoup David.
Merci à vous
m'avez fait un beau cadeau.
Vous m'avez fait un très beau cadeau, merci.
Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur. Merci beaucoup Pierre, ça a été encore un bonheur de travailler avec toi sur cette boîte à souvenirs. Notre réalisatrice Julie Dereau. Et puis notre journaliste Arthur Perrault qui nous a dégoté aussi pas mal de contacts. David, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi, face aux auditeurs, un petit mot.
Bah, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec cette vie qui a été remplie, qui n'est pas terminée. En vous disant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir assouvi mes rêves d'enfant. Mais mes rêves d'enfant, c'était pas simplement les médailles. Je voulais avoir une famille, une grande famille, très jeune. Et j'ai cette chance absolue qui me permet aujourd'hui d'être un papa comblé. Et puis d'avoir peut-être bientôt des petits-enfants et en tout cas des enfants qui sont extraordinaires et qui j'espère vont continuer à bonifier nos vies et notre avenir. Voilà, c'est tellement important de d'avoir ce fil conducteur. C'était le mien. Et ce fil conducteur-là, pour le coup, lorsqu'on essaye de conduire sa famille et de retransmettre quelque chose à ses proches, bah, il n'est pas si mal, parce que si tout le monde le fait, je pense qu'on s'en sortira bien, quoi, tous.
RMC, la boîte à souvenirs.